Bonjour, bienvenue à la conférence sur les multinationales des pays émergents. Pour introduire brièvement le propos, les pays émergents sont aujourd'hui ceux qui traversent le mieux la crise, dans la meilleure situation, si je puis dire. La crise en Chine en 2009, ça veut dire 9,1% de taux de croissance du produit intérieur brut. En Inde, ça veut dire 7,7%. En Égypte, 4,7%, en Indonésie, 4,5%. Bon, vous voyez, c'est pas trop grave. Et un des facteurs explicatifs de cette bonne traversée de la crise, c'est le dynamisme des principales firmes de ces pays que l'on nomme émergents. Et les principales firmes de ces pays sont devenues des firmes multinationales tout à fait significatives, tout à fait compétitives et qui sont parfaitement capables de concurrencer les grandes multinationales occidentales ou japonaises. Alors, firme multinationale ou multinationale en raccourci dans la suite, ça veut dire une firme qui réalise des investissements directs à l'étranger. Pays émergents, c'est un petit peu plus délicat. Il y a plusieurs listes de définition des pays émergents. Bon, la liste la plus officielle, c'est celle du Fonds monétaire international, mais le Boston Consulting Group en a une. Standard & Poor's en a une autre, etc. Donc il y en a plusieurs. Mais j'ai fait le pointage, il y a 14 pays qui reviennent dans pratiquement toutes les listes. Alors ce sont Argentine, Brésil, Chili, Chine, Égypte, Hongrie, Inde, Indonésie, Malaisie, Mexique, Pologne, Russie, Thaïlande, Turquie. Alors, même si vous n'êtes pas très connaisseur en économie, vous voyez tout de suite que ces pays, bien que tous émergents, sont très très différents. Je donne juste une image. Le plus pauvre des 14, c'est l'Inde. 1 200 $ de revenus par habitant. Le plus riche, c'est la Hongrie. 13 000 $, donc 10 fois plus que l'Inde. Donc ils sont assez différents. Et une autre différence, c'est que la littérature économique depuis quelques années pense que 4 d'entre eux sont vraiment plus dynamiques que les autres. On les a baptisés les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. Donc ce sont les stratégies, éventuellement quelques problèmes connexes, parfois de gouvernance, qui vont vous être présentés au sujet de multinationales égyptiennes. En fait, j'aurais pas dû faire la liaison parce qu'il y a il y en a une seule qui va être présentée, une multinationale égyptienne, de multinationales chinoises, indiennes et russes. Alors avant de leur donner la parole, je remercie les trois orateurs qui m'accompagnent à la tribune pour avoir trouvé du temps dans des agendas qui sont toujours compliqués et lourds, qui viennent parfois de lieux assez éloignés comme Hong Kong, pour l'un d'entre eux. Voilà. Donc je les remercie. On va s'organiser de la façon suivante. Je demanderai à chaque orateur de se cantonner à 15 minutes de temps de parole. Et je donnerai d'abord la parole à deux orateurs pour présenter la stratégie internationale d'une firme multinationale égyptienne qui s'appelle Weather Orascom Telecom, si je suis correct. Nous aurions pu avoir son directeur général, M. Karim Nasr, mais qui a été retenu par des obligations à Londres, si j'ai bien compris. Il sera donc remplacé par Michel Hubert, qui est le directeur financier de la même firme. Et puis, je donnerai ensuite la parole au professeur Xavier Richet, qui va nous présenter les stratégies ou l'expansion des multinationales chinoises. Xavier Richet est professeur au Centre d'études français sur la Chine contemporaine à Hong Kong. Et puis, j'ouvrirai une première séance de questions. Pendant une dizaine de minutes, vous aurez l'opportunité de poser des questions aux deux premiers orateurs. Et puis, on fera une seconde vague où il y aura une présentation des firmes multinationales indiennes, principalement dans le secteur de l'automobile et de la pharmacie, par le professeur Giovanni Balset, qui est de l'Université de Turin. Et moi-même, je fermerai la marche avec une présentation des stratégies des firmes multinationales russes. Et si nous sommes assez disciplinés, il nous restera une quinzaine ou une vingtaine de minutes pour un débat final ou un jeu de questions finales. Donc sans plus attendre, M. Hubert, vous avez la parole.
Merci. Bonjour. Alors déjà, je voudrais remercier Monsieur Andreev de me donner l'occasion de vous présenter la stratégie de développement d'Orascom Telecom et au-delà d'Orascom Telecom, du groupe Wazer, qui en fait est la holding qui chapeaute à la fois Orascom Telecom, qui est une société égyptienne cotée, et Wind, qui est un opérateur de téléphonie mobile en Italie. Alors, je vais déjà commencer brièvement par présenter qu'est-ce que c'est que ce groupe, qui n'est pas véritablement connu en France, puisqu'on n'a pas, on n'y a pas d'activité industrielle. Donc, si vous voyez peut-être la première slide, juste pour expliquer comment ces entités se positionnent les unes par rapport aux autres. Donc, Wazer Investment, c'est une société holding, donc véritablement une société extrêmement limitée. C'est avant tout une direction financière, direction générale, etc., qui contrôle à la fois donc Orascom Telecom, qui est une société cotée à la Bourse du Caire et cotée à Londres, qui regroupe des opérateurs en pays émergents. Donc c'est un business qui est le même que celui finalement d'un Vodafone ou d'un Orange, mais plus orienté pays émergents et à une taille encore quand même pas tout à fait comparable. Et Wind en Italie, qui est, je dirais par comparaison, c'est un peu l'équivalent d'un Bouygues Telecom en France, donc le troisième opérateur de téléphonie mobile, avec en plus des activités de lignes fixes, accès Internet, etc. Donc un opérateur diversifié, un peu comme, je dirais, comme SFR ou Bouygues en France. Et ensuite, donc, je voudrais vous présenter un petit peu l'histoire de ce groupe, qui est un groupe assez jeune, donc c'est une histoire assez courte. Et je voudrais insister sur une opération qui est peut-être plus intéressante ou plus particulière, c'est justement la manière dont Orascom, société égyptienne, s'est retrouvé indirectement à contrôler Wind, société italienne. Donc c'était une opération, je dirais, assez remarquable et probablement encore assez unique en son genre, d'investissement d'un opérateur de téléphonie mobile, enfin de télécom d'un pays émergent, venu investir dans les pays développés. Alors, donc historiquement, nous sommes nés il y a une douzaine d'années en Égypte. La croissance était très rapide, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même un grand groupe de communication à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, le groupe Wazer, si vous voulez voir quelques chiffres vraiment rapidement, c'est 120 millions d'abonnés dans une douzaine de pays, et on a des revenus consolidés d'à peu près 9 milliards d'euros. Donc c'est quand même un groupe véritablement de taille mondiale. En termes d'implantation, donc on est présent là encore un peu partout, je dirais. Donc on est présent dans des pays émergents au Moyen-Orient et en Afrique, Égypte, donc historiquement le berceau du groupe, je dirais, l'Algérie, la Tunisie et un certain nombre de pays en Afrique subsaharienne, notamment le Zimbabwe, le Burundi, la Namibie. On est également présent dans deux grands pays émergents d'Asie, qui sont le Pakistan et le Bangladesh, ainsi qu'on est le seul opérateur en Corée du Nord. Et ensuite, on a une présence dans deux grands pays développés qui sont en Europe, l'Italie, et en Amérique du Nord, le Canada. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là, dans un sens, je dirais, positif ? Ça s'est fait, je distinguerai de manière peut-être un peu artificielle trois grandes étapes. Je dirais, c'est un peu comme les enfants, on se met debout, on marche, et puis après on court. Parfois on tombe, mais... La première chose, c'était véritablement une vision. Je pense que le fondateur du groupe, Naguib Sawiris, fait partie des gens qui, à l'époque, donc c'était les années 97, ont cru au potentiel de la téléphonie mobile dans les pays émergents. Ce qui n'était pas forcément évident, sachant qu'à l'époque, c'était par exemple l'époque où Bouygues se lançait en France, on envisageait la téléphonie mobile comme étant encore largement un gadget de youpi, je pense, et on était... On pensait qu'en France, on arriverait à peut-être 20 ou 25% des gens auraient un téléphone portable. Et à l'époque, lui, sa vision, c'était de dire non, en fait, la téléphonie mobile, ce sera quelque chose pour les masses. Et ceci, y compris dans des pays où à l'époque, on n'envisageait sans doute pas qu'il y ait un marché. Pour vous donner une idée, les 20-25% de taux de pénétration de la téléphonie mobile, on a largement dépassé ce seuil dans un pays comme le Bangladesh. On est plutôt à 30-35%. Il y avait déjà cette vision, mais ensuite il y a eu la manière de la mettre en place. Au début, la première phase, ça a été, les premiers pas, je dirais, ça a largement été en coopération avec des partenaires comme France Télécom, comme Motorola, avec lesquels on a monté des opérations qui étaient plutôt des joint ventures, donc des prises de participation communes. C'était une phase donc à la fois d'expansion géographique, donc d'abord en Égypte où il y a eu un premier opérateur de lancer, puis très rapidement en fait une expansion dans d'autres pays, mais typiquement en coopération avec des opérateurs peut-être plus expérimentés. Donc c'était à la fois l'occasion d'acquérir une base, je dirais, géographique, industrielle, et aussi un savoir-faire. Ça a été aussi une période avec éventuellement justement des erreurs. On a fait des acquisitions d'opérateurs qui sont révélés plus difficiles à gérer que ce qu'on pensait, etc. C'est vraiment la phase de démarrage. Après ces problèmes de réglage et puis cette phase d'apprentissage passée, il y a vraiment une phase d'expansion extrêmement rapide. Et ça, on peut peut-être le voir en regardant justement l'évolution de notre nombre d'abonnés et de nos revenus dans le temps. Si vous regardez, je dirais la phase, ce que j'appellerais la phase d'apprentissage, c'est celle qui va peut-être jusqu'aux années 2000-2001. À ce moment-là, il y a eu un certain nombre de décisions stratégiques assez importantes de prise, notamment le fait de limiter le nombre de pays dans lesquels on pouvait s'implanter, puisque le management ne pouvait gérer qu'un nombre limité de problèmes à la fois. Donc de se recentrer sur quelques grands pays sur lesquels on pensait qu'il y avait le plus fort potentiel, avec des arbitrages parfois assez... sachant que ça correspondait aussi à une phase de crise financière en particulier dans les télécoms, et pour le groupe à un moment où l'expansion avait été extrêmement rapide et peut-être justement, certains pourraient dire, un petit peu les yeux plus gros que le ventre. Donc il y a eu des choix difficiles, le fait de vendre un pays, on était présent en Jordanie, l'activité a été vendue, et c'est ce qui a permis, par exemple, d'acquérir une licence en Algérie. Et finalement, ce sont des choix qui se sont avérés payants, puisque si on regarde l'évolution qui a suivi, on est justement rentré dans une phase d'expansion beaucoup plus rapide. Et donc là, plus tellement par une expansion géographique sur de nouveaux pays, mais c'est vraiment le fait que les pays dans lesquels on était présent, pour l'essentiel, ont connu une croissance extrêmement, extrêmement forte, extrêmement rapide du secteur de la téléphonie mobile. Ça a aussi correspondu à une stratégie de rachat d'un certain nombre de participations qu'on avait avec des partenaires minoritaires, qui étaient rentrés soit pour apporter une expertise, soit parce qu'effectivement on n'avait pas les moyens financiers d'acheter l'intégralité de la licence d'opération dans un pays, de choses comme ça, donc pour des considérations financières. Et je dirais que la bonne santé et la réussite opérationnelle a permis à ce moment-là de prendre le contrôle et de racheter ces participations minoritaires. L'autre grosse évolution stratégique dans ces années-là, c'est en 2005, c'est justement la décision de racheter Wind en Italie. Donc Wind, en fait, c'était au départ une société qui était contrôlée par France Télécom. France Télécom l'avait revendue au moment de ses difficultés financières pour des problèmes de dette. Ça avait été racheté par Enel. Enel, qui est plutôt une société, de type industriel, donc dont l'intervention dans les télécoms n'était pas forcément, là encore, complètement en cohérence avec leur propre stratégie. Donc ils étaient vendeurs. Et l'idée qui présidait à ce rachat, c'était que justement toute cette expertise qui avait été acquise en pays émergents, c'est-à-dire à la fois la capacité de montrer un dynamisme commercial important et en même temps d'avoir une très bonne maîtrise des coûts qui sont nécessaires quand on opère avec des niveaux de revenus qui ne sont pas forcément ceux d'un pays développé. Pour vous donner une idée, le revenu moyen par abonné dans un pays comme le Bangladesh, donc la facture moyenne, je dirais, d'un client de téléphonie mobile, chez nous, c'est 2,5 $. Donc avec 2,5 $, il faut faire tourner le réseau, il faut lui vendre le service, il faut faire du marketing, il faut assurer le service après-vente, etc. Donc c'est des structures, en tout cas ça induit une discipline et une maîtrise de la structure de coûts dont on pensait qu'effectivement ce savoir-faire serait applicable chez un opérateur européen, sachant que par ailleurs Wind, qui était historiquement avait été développé par France Télécom, qui avait été géré par Enel, donc issu d'une culture de très grosse entreprise, ça avait à contrario probablement induit des types de comportements qui n'étaient pas forcément extrêmement, extrêmement dynamiques, ni une attention énorme aux problématiques de coûts et de profitabilité. Donc l'idée était que là il y avait peut-être quelque chose à faire et que une infusion, je dirais, d'une autre culture, en tout cas de management, pouvait donner des résultats. Donc ce qui a été fait, si on revient encore la slide d'après sur la structure de ce qui a été fait, c'est que pour en arriver à ces structures-là, en fait, les actions, donc à l'époque, les actions d'Orascom ont été utilisées comme étant en quelque sorte la mise de fonds initiale pour un LBO, donc un rachat d'entreprise largement financé par la dette. Donc Wind, c'est une société qui était valorisée 12 milliards d'euros. Sur les 12 milliards d'euros, il y en a 9 milliards qui ont été apportés par les marchés financiers, donc les banques, de la dette d'acquisition. Et c'était à l'époque le plus gros LBO c'était à l'époque le plus gros LBO d'Europe. Et l'équivalent des 3 milliards d'euros manquants, c'était finalement la valeur des actions Orascom qui était apportée pour représenter la mise de fonds, entre guillemets, initiale. Donc l'actionnaire d'Orascom a utilisé ces actions comme étant sa propre mise de fonds, et les banques ont fait le reste. Et le résultat, je dirais que le résultat est bon et même très bon. C'est-à-dire que Wynn, c'est véritablement une success story. C'est l'exemple d'une société qui a largement amélioré ses résultats, à la fois sur le plan commercial, sur le plan des revenus et sur le plan de la discipline des coûts et donc de la profitabilité. La dette, qui est effectivement une dette extrêmement, extrêmement importante en montant, c'est une dette qui, ça se passe bien, je dirais, les marchés. C'est un exemple de relative, enfin, c'est un des grands exemples de réussite d'un LBO. Je crois qu'on peut le dire et les banquiers nous le confirment. Donc c'est une opération qui part par son côté, à la fois est intéressante à mon avis, par son côté un peu hors norme, c'est-à-dire véritablement voir un opérateur égyptien qui n'existait pas 10 ans avant, qui vient et qui rachète une société à 12 milliards d'euros en Italie, c'est quelque chose d'assez sans précédent. Et c'est aussi une réussite dans le sens où, d'un point de vue business, l'idée derrière s'est avérée payante. Alors la question maintenant, c'est par rapport à cette stratégie, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir demain ? L'expansion géographique, la recherche de nouvelles licences, d'aller vers des pays, des territoires vierges, le côté un peu far west du développement des pays émergents, c'est à peu près fini. Pour vous dire, on a effectivement un opérateur en Corée du Nord, et je crois qu'il y a peu de pays qui sont moins ouverts à l'activité internationale que la Corée du Nord, donc je crois qu'on est à peu près, enfin nous, globalement les opérateurs de téléphonie mobile, évidemment pas que nous, sommes allés à peu près partout, donc il n'y a plus vraiment de nouveaux marchés à défricher. En général, quand de nouvelles licences sont disponibles, c'est que soit c'est typiquement peu attractif, parce que soit effectivement il y a un intérêt et c'est très cher, soit plus fréquemment c'est que c'est la cinquième, sixième, septième licence dans un pays et la profitabilité n'est pas forcément au rendez-vous. Donc l'idée d'aller dans de nouveaux pays est peu attractive. Donc c'est plutôt par le biais de rachats ou de rapprochements entre opérateurs que la stratégie de développement du groupe a des chances de passer. Sachant que là, très récemment, on vient d'annoncer un projet de fusion avec Vimpelcom, qui est aussi un opérateur là, originaire de Russie, donc opérateur de pays émergents, qui lui aussi cherche à se développer et s'est développé en dehors de ses frontières historiques. Et donc la prochaine étape de notre stratégie, c'est peut-être dans le cadre d'un groupe plus important, toujours largement basé sur les pays émergents, qui, si l'opération se fait, serait l'équivalent du cinquième opérateur mondial en nombre d'abonnés. Mais c'est plus ce genre d'opération qui demain risque d'être la stratégie d'un opérateur comme le nôtre. Voilà.
D'accord, merci Michel Hubert. Donc la mécanique est lancée. Vous voyez qu'en étant une firme du Sud, pour le dire ainsi, on peut parfaitement réussir dans le Nord. C'est l'histoire qui vient de nous être racontée sur la fin de son exposé par Michel Hubert. Eh bien, il y a des histoires du même genre du côté de la Chine. Xavier.
Bien, merci beaucoup, Vladimir Andreev. Alors, d'abord, je voudrais dire que je suis en poste, effectivement, en ce moment à Hong Kong, mais je voudrais dire aussi que je suis un peu le régional de l'État, parce que j'ai été pendant 5 ans professeur à Lyon, à l'Institut d'administration des entreprises, et puis aussi à Lyon 2. Et je garde un très bon souvenir, peut-être les meilleures années de ma vie professionnelle, puisque j'étais jeune, et ça remonte à très longtemps. Voilà. Alors, donc, on peut partir de Lyon et puis aller un peu partout. Et en Asie. Alors, donc, ce que je voudrais montrer un peu, c'est, disons, bon, vous avez vu que la semaine dernière, le président chinois, M. Hu Jintao, est venu avec son carnet de chèques, entre autres, et pour acheter plein de choses. Mais parallèlement, si vous voulez, et c'est un peu au cœur du débat au sujet des surplus fantastiques que crée la Chine aujourd'hui, c'est que d'un côté, il y a les surplus financiers qui permettent à la Chine d'acheter et de ne pas réévaluer le RMB en disant on ne réévalue pas, mais on va acheter des Boeing, des Airbus. Et de l'autre, eh bien, il y a l'autre aspect qui est comment les firmes chinoises s'internationalisent, comment elles deviennent aussi des compétiteurs. Et je crois que c'est un peu ça le point important de la croissance chinoise aujourd'hui. D'un côté, disons, une économie un peu qui a fait du mercantilisme en appliquant une politique, disons, d'exportation avec des coûts faibles, etc. Et de l'autre, qui acquiert à travers la coopération industrielle avec des pays développés des ressources, met en œuvre ses compétences, ses ressources et est aujourd'hui capable de concurrencer donc les grandes firmes européennes, internationales, etc. Donc ça, c'est un peu le thème donc, que je vais aborder. Alors, donc, si on regarde un petit peu les investissements chinois, enfin, disons, la présence chinoise, on voit qu'aujourd'hui, la Chine est présente un peu dans tous les continents, tous les secteurs, que la croissance des investissements chinois, elle est continue et exponentielle. Mais évidemment, il n'y a pas que la Chine, comme l'a dit Vladimir Andreev tout à l'heure, puisqu'on va voir des pays comme le Mexique, l'Inde, le Brésil, qui eux aussi, et l'Égypte, hein, dont on vient d'avoir un aperçu, qui sont aussi des pays émergents. On le voit aussi avec, comment dire, des points très sensibles, puisque les Chinois sont aujourd'hui concurrents pour...
Tu peux parler plus.
Ah, pardon.
Plus
près du sont devenus concurrents pour construire un TGV en Californie. Ils construisent actuellement des autoroutes en Pologne. C'est eux qui ont fait l'autoroute Annaba-Oran en Algérie. Ils viennent d'investir en Grèce et rachètent les bons... Des Grecs, etc. Et aussi, on voit que, par exemple, le dynamisme économique de l'Australie est en grande partie lié aux investissements chinois, etc. Donc, et même, ils vont racheter Chaco-BN, vous savez, qui nous rappelle nos 4 heures d'enfants en France. Donc, on voit que les Chinois sont partout. Alors, ici, le tableau montre effectivement une très forte croissance des IDE chinois, des investissements directs étrangers chinois, avec des points intéressants. Tout d'abord, une concentration très forte autour de l'Asie. Donc ça, c'est un problème bon, classique hein, d'investissement direct. On va assez proche de là où l'on est, mais aussi avec des expansions en Amérique latine, en Afrique, etc., et en Europe. Et dans le tableau qui est ici, c'est assez intéressant de montrer que finalement, on va avoir des zones avec des investissements qui vont être centrés sur la finance, les services aux États-Unis, en Europe, les matières premières en Amérique latine, etc. Et donc une diversification en fait de la stratégie de ces firmes. Alors, comme je disais tout à l'heure, les Chinois ne sont pas les seuls, mais si on prend, des statistiques, on va voir, par exemple, dans ce que disait Vladimir Andreev tout à l'heure au sujet du rapport du Boston Consulting Group, que parmi les 100 firmes les plus dynamiques, parmi les pays émergents, on va contrôler, on va voir que 43 sont chinoises. 43 sont chinoises et en grande partie, on va trouver de tout, des firmes d'État, des firmes non étatiques et qui vont agir aussi bien dans les matières premières, dans les services, mais aussi dans la transformation, etc. Alors qu'on verra que la Chine n'aura qu'une vingtaine d'entreprises, mais qui seront plutôt des conglomérats familiaux. Alors, mais néanmoins, malgré la peur, parce qu'on a toujours peur, hein, on a peur, péril jaune, ça revient, il faut quand même relativiser aujourd'hui, puisqu'on voit dans ce tableau que finalement, si on prend le stock des IDE autour des dernières années, de la décennie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les IDE chinois sont quand même très loin par rapport aux IDE européens, américains, etc. Donc pour vous montrer qu'il faut quand même relativiser malgré la très forte croissance, disons, de ces firmes. Néanmoins, on constate que si on prend les fameux BRIC, moi j'aime pas trop le terme BRIC, mais je veux pas, intervenir sur l'exposé de mon collègue. Moi, je pense qu'il faudrait enlever le R parce que, bon, je ne suis pas convaincu que la Russie soit vraiment un pays aussi dynamique, mais on reste quand même assez intéressant. On voit quand même que, finalement, parmi les BRIC, bon, la Chine est le premier. bien sûr, mais que les pays, les États-Unis, par exemple, l'Union européenne, le Japon, restent dominants. Donc il faut relativiser la fameuse peur, la peur de l'Occident, toujours, la peur des jaunes, etc., par rapport, disons, mais néanmoins, il y a quand même une très forte croissance, et cette croissance, elle est très forte, notamment à partir du début des années 2000, et qui correspond à l'ouverture, évidemment, de l'économie chinoise, mais aussi à l'adhésion de la Chine à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, qui a ouvert à la fois pour les firmes chinoises la possibilité d'exporter, mais aussi pour, disons, qui a rendu plus facile aussi l'entrée des firmes étrangères en Chine. Alors, un autre problème qui est aussi un problème des droits de propriété, de localisation, etc., nous montre que les choses ne sont pas très claires, parce que les pays qui vont recevoir les investissements chinois, en premier lieu, vont être... C'est Hong Kong. Hong Kong, c'est un peu... C'est le portail obligé. Et on va voir aussi que le deuxième stade va être les tax havens, les endroits où on va en Amérique latine, etc., dans les Caraïbes, profiter des facilités fiscales, etc., pour investir. Donc ça veut dire, par exemple, qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'investissements qui vont venir des îles Vierges britanniques vers les États-Unis, mais d'origine chinoise, que d'investissement de Chine vers, comment dire, un autre pays, bon, pour montrer les facilités qu'offrent, disons, les paradis fiscaux. Et d'ailleurs, ça va être un point important parce que finalement, le gouvernement chinois va être assez ambigu vis-à-vis de ce problème, puisque d'un côté, il va essayer à réprimer un peu ces mouvements de capitaux qui vont fuir dans les tax havens, dans les paradis fiscaux, d'une part, mais en même temps, ils savent que il faut que ça passe par là. Et donc, c'est un peu l'ambiguïté aujourd'hui des investisseurs du gouvernement chinois. Alors, en fait, pourquoi voit-on ce phénomène d'internationalisation des investissements directs chinois? Je pense que la Chine cherche, comme toutes les firmes dans les différents pays, à acquérir des actifs stratégiques, c'est-à-dire des actifs à très fort potentiel de croissance, à la fois pour exporter, pour acquérir la valeur ajoutée, pour acquérir des produits, etc. Il faut voir aussi que c'est lié à la phase d'expansion et à la phase de croissance de l'économie chinoise, avec la mise en place, de politiques industrielles, d'innovation et de soutien du gouvernement central et des provinces chinoises. Parce qu'on va voir que parmi les firmes chinoises qui exportent, il n'y a pas simplement des firmes qui sont soutenues par Pékin, le gouvernement central, mais aussi par la région de Canton, de Shanghai, etc. Donc ça veut dire que tout le monde y va. Il n'y a pas simplement l'État central qui va dire telle ou telle entreprise peut aller exporter. Tout le monde y va. Donc il y a une espèce, de concurrence entre les firmes pour aller à l'extérieur. Et puis il y a un autre aspect extrêmement important qu'on doit absolument considérer et qui est un peu à l'origine de la stratégie chinoise, c'est le fait que si on compare par exemple au Japon, si on compare à la Corée du Nord, finalement c'est l'arrivée à maturation et c'est l'impact des IDE étrangers en Chine. Ça veut dire que les Chinois pendant 30 ans, ont reçu des investissements français, américains, allemands, etc., qui ont porté leurs fruits en termes de développement économique, régional, etc., mais qui aussi ont porté ont fortement contribué au niveau domestique à l'accumulation de compétences. C'est ça qui est extraordinaire, parce que ça veut dire que les firmes chinoises qui ont coopéré avec les firmes françaises, allemandes, etc., sont aujourd'hui en mesure de devenir les exportateurs. C'est ça, c'est ce que les économistes, il y a un grand économiste et sociologue lyonnais qui n'est pas là parce qu'il est à Pékin, qu'il est à Canton, Jean Ruffier, que vous connaissez peut-être, qui a énormément travaillé là-dessus, sur les problèmes de maturation, d'accaparation, d'appropriation du savoir-faire. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental et une des raisons qui explique la très forte croissance des IDE chinois aujourd'hui est liée à ce phénomène d'appropriation au niveau local, comment les firmes chinoises ont été capables, par le biais de la coopération technologique, etc., de connaître et de prendre en compte des technologies, des savoirs qui peuvent reproduire aujourd'hui pour faire des TGV chinois à l'intérieur de la Chine, pour faire des voitures, pour exporter, etc. Alors voilà, donc ça c'est un peu le... un autre problème qui se pose aussi, c'est que la Chine, finalement à accaparer ses connaissances, comme je l'ai dit tout à l'heure, le point 2, mais aussi constate que pendant, au cours de ces 20 ou 30 dernières années, a été un peu l'atelier du monde. Et il se dit, mais l'atelier, on ne peut pas être l'atelier du monde. L'atelier, c'est où on fabrique. On n'est pas, si on fabrique les choses, on ne domine pas le produit. Donc le problème, c'est comment monter sur ce que les économistes appellent la chaîne de valeur, c'est-à-dire non plus être simplement, disons, recevoir des ordres pour faire des choses, mais comment concevoir les produits et comment les produire et dominer même au niveau des technologies, savoir aussi être dominer un peu des technologies et d'avoir un savoir-faire local qui ne soit plus dépendant, disons, de la présence des firmes locales. Et un autre point aussi qui est très important, sur lequel on travaille en ce moment, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la politique de grandeur, c'est-à-dire que comment on peut devenir un grand pays sans avoir, disons, des grandes firmes. Et là, sans intervenir sur le domaine de mon collègue, Vladimir Andreev, si on regarde, par exemple, à l'époque de l'Union soviétique, l'Union soviétique était un grand pays, un très grand pays, mais il n'avait pas de firmes multinationales. Pourquoi ? Parce que c'était un pays centré sur lui-même, autarcique. Et aujourd'hui, dans le modèle de développement, disons, moderne en général, si on prend le Brésil, si on prend enfin, d'autres pays, on ne peut pas concevoir que l'économie devienne, se modernise, etc., et laisse de côté ce domaine international. Et donc c'est ça qui est très important, disons, dans la stratégie chinoise, c'est comment l'internationalisation des firmes chinoises va de pair avec la montée en puissance de l'économie chinoise en tant que telle. Donc on ne peut pas séparer les deux. Donc c'est ça qui est très important. On quitte un peu le modèle autarcique qui était propre aux économies socialistes de type soviétique, etc., pour entrer dans une économie plus ouverte. Alors, voilà. Alors donc, internationalisation qui va un peu partout. Alors je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est lié au modèle de développement qui a été choisi depuis une trentaine d'années en Chine. La Chine, contrairement par exemple au Japon et à la Corée, a été dépendante de l'investissement direct étranger et des connaissances. Si on prend le modèle japonais-coréen, les Coréens, qui sont les meilleurs, pour mon point de vue, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux qui a été fait jusqu'ici. Pourquoi ? Parce que les Coréens et les Japonais ont fait ce qu'on appelle le reverse engineering, ils ont été capables de concevoir des systèmes et de venir, disons, se mondialiser. Les Chinois l'ont fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de base scientifique historiquement en Chine, mais en raison du décalage et du très faible développement, enfin disons du retard en termes de développement chinois, les Chinois ont fait le pari en disant « Nous, on va s'industrialiser et on va croître en s'associant avec l'apport des capitaux étrangers. » Voyez ? Alors que si on prend les Japonais, si on prend les Coréens, c'est par le processus d'imitation, d'enrichissement, le « backward engineering », comme diraient les Anglais, qu'ils ont été capables de dominer les technologies, de rattraper Toyota. Bon, Toyota est supérieur à Ford, etc. Les Chinois, c'est par la coopération. Et une fois qu'on coopère, eh bien, on est capable aussi de s'approprier et de croître. Alors ça, c'est très important. Autre aspect qui est très intéressant aussi, c'est qu'en fait, dans la stratégie chinoise, il y a à la fois les marchés nouveaux qu'on va chercher, l'accès à des technologies. Les Chinois font ce qu'on appelle, les Américains appellent le shopping around. Ils ont de l'argent, ben ils vont s'acheter des firmes maintenant, ça coûte pas cher, et donc ils y vont. Et puis il y a aussi l'accès aux matières premières, c'est-à-dire finalement comment s'assurer, disons, les ressources permettant de maintenir ce rythme très fort de croissance, qui explique aussi pourquoi la Chine est très concernée par le problème de réduction les problèmes d'environnement, de réduction la consommation, les consommations d'énergie, etc. Ok. Alors, en fait, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut finalement, et ça permettra de conclure, on peut dire que un des problèmes autour duquel se trouve confrontée la Chine, c'est en fait, ça me permettra de conclure, puisque on pourrait consacrer beaucoup de temps à cela, d'abord la politique de grandeur, comme j'ai mentionné tout à l'heure, d'abord aussi, ensuite l'expansion des marchés. Aujourd'hui, les firmes chinoises sont obligées de continuer et de suivre des marchés qui existent, et en même temps aussi, il va y avoir une très forte concurrence sur le marché. Par exemple, si on prend aujourd'hui le marché chinois dans l'automobile ou d'autres secteurs, il y a une très forte concurrence. Beaucoup de firmes chinoises sont obligées d'aller à l'extérieur pour maintenir le niveau de profit, parce que sur le niveau domestique, les profits sont en train de baisser. Il y a les contraintes sur les ressources. Et il y a aussi un autre phénomène qui est très important, qui est aussi l'achat de marques, de branding, si on l'appelle, c'est-à-dire le fait qu'en acquérant des marques existantes aux États-Unis, en Europe, etc., eh bien, on peut, comment dire, maintenir une position commerciale très forte. Et puis finalement, on peut dire qu'il y a un mélange de stratégies à la fois offensive et défensive, défensive au niveau de l'accès aux matières premières, offensive sur le gain, sur le gain de part de marché. Alors de ce point de vue, ce qui est très, très intéressant de voir, c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'État, on ne peut pas dire que, même si l'État est très présent, parce qu'on est encore dans un pays où l'État possède encore 50%, 60% du PIB, enfin crée 60% ou même plus selon les statistiques, mais il y a des grandes différences, des divergences là-dessus. L'État joue un très grand rôle, mais il joue un rôle de fixation d'un cadre général. En fait, il peut soutenir des firmes, mais en même temps, il peut échouer. C'est-à-dire qu'il peut, enfin, disons, le succès des firmes chinoises à l'exportation n'est pas lié directement au rôle de l'État. Le rôle de l'État est un incitateur, il pousse les firmes à s'ouvrir, etc. Mais le succès n'est pas lié, disons, directement à ce rôle de l'État. Et c'est là où on voit que le succès des firmes chinoises à l'exportation est lié peut-être à la fois aux incitations que procure l'État, mais il est lié aussi aux stratégies que ces firmes chinoises au niveau domestique ont été capables de réaliser et donc d'aller à l'extérieur. Donc c'est un peu ça finalement qu'on peut tirer en conclusion finalement. C'est cette, excusez-moi, c'était très long ma présentation, mais cette capacité d'être capable de se développer au niveau interne, de concurrencer d'abord, d'entrer dans le système concurrentiel à l'intérieur du gouvernement de la Chine, du marché chinois, et sur cette base, d'être capable donc de devenir international, ce qui conduit aujourd'hui à des firmes chinoises comme Geely, par exemple, d'acheter des trésors comme Volvo, et ce qui conduit à ce qu'on verra dans quelques années, à ce qu'on n'aura plus « made in China », mais « made for China abroad », ça veut dire que finalement, la Chine elle-même va délocaliser sa production pour vendre sous son propre, étiquette. Alors voilà, c'est une trajectoire extrêmement intéressante, parce que finalement, on a l'expérience d'un pays en développement, une économie socialiste, qui était retardée économiquement, entre guillemets, qui devient aujourd'hui capable de concurrencer les grands groupes internationaux et devenir, un compétiteur au niveau international.
Merci, Xavier. Donc, comme promis, pour ne pas augmenter le degré de frustration, nous pouvons prendre quelques questions, s'il y en a, s'adressant à l'un ou l'autre orateur. Oui, je vous en prie.
Non, vous en prie. On vient de parler de multinationales égyptiennes, chinoises, mais vous nous avez parlé de capital, de technologie. Capital humain, les individus là-dedans, ça n'existe plus.
Merci.
Vous n'avez absolument pas abordé, enfin vous nous avez parlé un petit peu du fait que les Italiens, ils étaient pas très efficace, c'est tout ce que vous avez...
Non, c'était pas par rapport aux Italiens, c'était par rapport au type de... Si vous voulez, une société qui est gérée... Enfin, c'est le problème classique des grosses sociétés, c'est-à-dire que quand on existe depuis longtemps, on tend à créer une structure relativement importante, surtout quand on a une culture de grosse entreprise d'État, etc. Nous, historiquement, on est apparu depuis... on a 12 ans, si vous voulez. Donc avec les avantages et les inconvénients que ça apporte. Sur beaucoup de choses, on n'a pas de structure parce qu'on n'a pas eu le temps de les faire. Dans certains cas, c'est un avantage, en d'autres, c'est un inconvénient. Maintenant, au niveau humain, je pense que c'est effectivement quelque chose d'intéressant parce que, d'abord, quand on investit dans un pays et qu'on développe une technologie, typiquement la téléphonie mobile, qui est quelque chose de relativement avancé, on crée quand même beaucoup d'emplois. Une partie significative de ces emplois sont des emplois avec plutôt un bon niveau de qualification et relativement au pays dans lequel on opère, je dirais un excellent niveau de rémunération. Très clairement, les gens, des collègues me l'ont dit, donc c'est pas des gens qu'on embauche aujourd'hui avec des positions de cadre au Bangladesh ont des salaires qui étaient il y a quelques années au Bangladesh des salaires de ministres. Donc il y a un réel enrichissement du pays, même si effectivement c'est une industrie qui avant tout est une industrie qui importe des équipements et on produit pas grand chose de tangible. Mais on crée, on apporte un savoir-faire, les gens se forment, maîtrisent les technologies. Une part de plus en plus importante de la partie conception des réseaux de télécom, ingénierie de ce qui est fait, etc., est fait sur place. Et par ailleurs, une des richesses d'un groupe comme celui-là, c'est qu'on a des gens qui viennent d'un peu partout, justement de différents pays, les gens sont très mobiles. Pour donner l'exemple, on est à Paris, donc on a un bureau à Paris pour des raisons de commodité de transport, etc., puisqu'on est un peu partout dans le monde, et puis pour des questions de... parce que Paris est une belle ville, donc les gens... quand on leur propose un bureau à Paris, c'est pas mal. Et on est une vingtaine de personnes, et on doit avoir à peu près 14 nationalités. Donc effectivement, je pense que je ne sais pas si c'est représentatif, mais en tout cas, j'ai l'impression que justement, en termes de... Pas de création de valeur de humaine ou ce qu'on voudra, mais qu'en tout cas, il y a effectivement un apport positif dans le fait que les entreprises vont dans des pays et y apportent effectivement un savoir-faire et que sur place développent une base d'emploi et forment les gens et offrent aussi aux gens formés des possibilités d'emploi qui, là encore, dans un certain nombre de cas, n'existaient pas il y a quelques années, effectivement.
Merci. Une autre question ? Oui ?
Les écarts qui existent entre l'économie chinoise et les économies européennes, ne pensez-vous pas qu'un jour, l'économie chinoise va étouffer nos propres économies ?
C'est une grande question, ça. Mais le problème, c'est... D'abord, je voudrais revenir sur la question sur l'emploi, en disant qu'en Chine, on a différents marchés du travail. En fait, si on prend des firmes, les firmes qui entrent dans l'atelier du monde, c'est l'exploitation, c'est-à-dire les ouvriers, c'est une exploitation, c'est pas le 19e siècle, mais c'est pas loin. Mais on a quand même, ça c'est un premier point, on a aussi les firmes, par exemple, si vous prenez les firmes, une firme que je connais, par exemple l'entreprise Wuhan, de Citroën à Wuhan, dans le centre de la Chine, bon, les ouvriers, ils ont un niveau de rémunération supérieur, d'éducation supérieure, etc., et ce sont à travers ces ouvriers, les techniciens, que se fait le transfert de technologie. Donc il y a un marché du travail extrêmement... Il y a un marché du travail assez dynamique qui existe en Chine, qui fait que des gens qui ont une qualification, qu'ils acquièrent dans une firme internationale, peuvent aller ensuite dans les firmes privées. Si on prend par exemple le groupe Geely, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a racheté Volvo, c'est une firme privée, non étatique, ce qu'on appelle non étatique en Chine, et qui est dans les cadres, les ouvriers, enfin disons les techniciens, etc., proviennent qui ont travaillé dans les firmes étrangères. Donc il y a une mobilité du marché du travail. Donc le capital humain est quelque chose de très important. Alors, donc ça fait le travail non qualifié, c'est ce qui permet à la Chine de prendre, de vendre un peu partout des produits de très faible valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose en Chine, c'est comment tourner vers un secteur qui intègre davantage de travail qualifié. Alors, le problème, ça rejoint votre question, c'est-à-dire que finalement, quelle est la capacité des firmes de la Chine en tant que pays et des firmes chinoises à se développer et à faire appel à un travail de plus en plus qualifié. Ça c'est le grand problème. C'est-à-dire, est-ce que le modèle que mettent en place les firmes chinoises qui sont très compétitives ne remettent pas en cause les positions acquises des grandes firmes nationales européennes. Bon, par exemple, ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui en Chine, c'est un peu ça, c'est-à-dire quel est l'avantage comparatif des firmes chinoises dans le domaine automobile ou ailleurs par rapport aux firmes européennes. Donc, au-delà du coût, au-delà du prix, le prix, c'est le salaire. Si on regarde, par exemple, le prix, le salaire en général, hein, dans l'industrie automobile, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les immobilisations, c'est la technologie, etc. Donc, comment les firmes chinoises sont aujourd'hui capables d'entrer dans un secteur où les économies les plus développées avaient un avantage concurrentiel? Et je fais un clin d'œil à mon collègue qui vient de Turin. La semaine dernière, le patron de Fiat a dit « Nous, on ferait du profit si toutes nos usines n'étaient plus en Italie. » Bon, pour montrer qu'aujourd'hui, en termes de compétitivité, de savoir-faire, les firmes chinoises ou indiennes sont vraiment très proches de ce qu'on fait chez nous.
Une dernière question par une dame, je vous en prie.
Vous rendez des services de téléphonie mobile dans les pays émergents. Est-ce que vous avez adapté de quelle façon les produits que vous proposez? Est-ce que vous avez pris en considération véritablement les besoins qui sont, à mon avis, différents dans ces pays-là? Ou est-ce que vous créez une besoin telle qu'il existe dans les pays occidentaux?
Non, je pense qu'il y a plusieurs choses. Le produit de base qu'on vend, il est finalement assez simple, c'est de la minute de communication, et ça, c'est un besoin qui est relativement humain et universel. Donc, je dirais que le besoin ou la volonté que les gens de se parler, elle existe partout. Maintenant, là où effectivement la téléphonie mobile peut apporter quelque chose qui n'est pas forcément aussi apparent quand on est dans un pays développé, c'est d'abord, en général, dans un certain nombre de ces pays-là, il n'y a pas ou très peu de téléphonie fixe. Et ça fait une différence énorme parce que, par exemple, ça veut dire que dans bien des cas, si vous n'avez pas de moyens de télécommunication, il faut vous déplacer. Donc ça peut être quelque chose d'aussi bête que, avant d'aller chercher une pièce détachée pour un moteur, si vous pouvez téléphoner avant, savoir si les pièces sont disponibles, ça vous évite un déplacement. Donc là, il y a des besoins, je dirais, basiques qui visiblement existaient, puisqu'on n'a pas eu à pousser fortement les gens pour qu'ils viennent prendre nos services et qui sont satisfaits. Pour vous donner un exemple, quand on a ouvert le service en Algérie, il y avait une liste d'attente de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc le service n'existait pas, donc il n'y a pas de publicité, de marketing, on n'a pas poussé. Algérie Télécom avait des centaines de milliers de gens en attente pour avoir une ligne de téléphonie mobile. Et les gens étaient prêts à payer plusieurs centaines de dollars pour avoir une ligne de téléphonie mobile. Donc là, clairement, il y a un besoin qui existe. Ensuite, en termes d'adapter le service, il y a effectivement un certain nombre de choses qui ont été développées dans les pays, dans les pays émergents et qu'on n'a pratiquement pas chez nous. Il y a un aspect comme le paiement par téléphone, l'utilisation du téléphone portable pour payer, qu'on présente entre guillemets ici comme quelque chose qu'on pourrait peut-être faire, qui serait l'innovation, etc. Dans un certain nombre de pays, ça existe et c'est très utilisé. La différence étant que nous, on a déjà tout ce qu'on veut en termes de tout le monde a un compte en banque, on peut avoir une carte de crédit, une carte de paiement. Dans un pays où rien de tout ça n'existe, vous avez là un moyen de paiement électronique pour lequel il n'y a pas de substitut. Donc ça, c'est typiquement une application qui a commencé très tôt dans les pays émergents et qui, chez nous, tarde à décoller, peut-être tout simplement parce que chez nous, il n'y a pas de besoin, il y a des banques, il y a toutes sortes de services qui fonctionnent comme ça. On a des services d'accès au Bangladesh, par exemple, des services de... Là encore, il n'y a pas une infrastructure médicale extrêmement développée. Donc vous avez des consultations téléphoniques par téléphone, où en gros on a un médecin qui est en stand-by et quand vous avez un problème, vous l'appelez et vous pouvez parler à un médecin et avoir un conseil. Alors effectivement, ça ne remplace pas une consultation réelle, mais on est dans un pays où de toute façon la consultation du médecin qualifié qu'on irait voir n'est pas forcément aussi accessible que pour nous. Donc effectivement, je pense qu'il y a plusieurs, il y a différents niveaux. Je pense qu'il y a un besoin universel qui est de se parler. On voit que ça marche, il y a un besoin. Il y a des cas où c'est des services supplémentaires qui sont effectivement adaptés aux pays émergents. Après, effectivement, je pense que comme partout, on fait la publicité et par certains côtés, le mobile dans certains pays est devenu aussi, un signe de prestige. Donc clairement, oui, il y a certainement aussi un côté société de consommation comme dans beaucoup d'endroits, oui.
Merci.